La sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice ce soir en compagnie de Mel et Nick.
Salut.
Cloutier.
Salut, one shot deal cette semaine.
Yes sir.
Une fois.
Une fois.
Un petit mardi.
Pour ma dernière semaine en ondes.
C'est vrai,
la petite pause estivale.
Tu me racontais ça, j'ai fait OK, ça se termine.
Ça va vite.
Ce jeudi, ce vendredi.
Ben oui.
Ouais.
Ouais.
Wow.
Déjà, ensuite j'ai une petite pause et je tombe en remplacement là, dans des shows ici.
Ouais, mais
là.
On va travailler ensemble cet été, quelque
oui.
part cet été. Là.
Et on va prévoir une collecte de sang, là.
Ah oui, on va le faire. Promis.
On le fait.
Ça, puis la voyante.
Oui.
À suivre.
Oui, mais là, Monique, elle a écouté notre
épisode okay.
ensemble, dans un détour où on parlait de voyance.
Oui.
Et elle dit, là, il a l'air toqué un petit peu, là.
Ah! comme Thomas, non, j'ai dit.
Il est toqué, mais il est quand même ouvert.
Oui.
Il est quand même ouvert à l'expérience.
Oh oui, je suis ouvert à l'expérience. Mais c'est une autre, écoute, c'est une autre affaire, mais je vais être dur à convaincre. Mais je suis ouvert.
Ce sera à suivre, oui. mesdames et messieurs. Restez les nôtres. On va tout de suite dans le vif du sujet, Nick.
Allons-y.
Puisque j'ai l'impression qu'on va manquer de temps.
Oui.
Ah, ça passe vite, ce show-là, c'est épouvantable. Ce soir, on a la chance d'avoir avec nous une personne avec qui je discute depuis longtemps pour venir à la radio, justement. Et je suis vraiment, vraiment contente. Elles ont fait de la route. En fait, on a deux invités avec nous ce soir. Elles ont fait de la route pour venir jusqu'ici. Et c'est Manon que j'ai eu la chance de rencontrer en contexte de naturisme. Naturisme festif. Et Mélanie, qui est infirmière clinicienne CIDEP, qui est en notre compagnie ce soir. Donc, on va parler ce soir de chemsex. On va parler de libertinage. Manon est une ex-libertine et une ex-adepte de chemsex. Mais juste avant, exactement, mais juste avant d'aller dans ton histoire, ton parcours, que tu nous partages tout ça, on va se rendre du côté de Mélanie, qui va nous expliquer... Qu'est-ce qu'une infirmière clinicienne CIDEP et qu'est-ce que le chemsex exactement?
Bien, merci pour l'invitation.
Gros plaisir!
En fait, le CIDEP, dans le fond, c'est des services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang. C'est des services qui s'adressent à une clientèle particulière. Alors, c'est des gens qui vont avoir des facteurs de risque en lien avec les ITSS. On parle des consommateurs de drogue, travailleurs et travailleuses du sexe, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les jeunes en difficulté, les détenus, des gens...
Relations sexuelles à risque.
Exactement, à risque. Puis, dans le fond, c'est important de savoir qu'on travaille dans une approche de réduction des méfaits. Fait qu'on n'est pas là pour dire à la personne que la drogue est bonne ou non. On est plutôt là dans la réduction des méfaits qui repose sur la réduction des conséquences négatives liées à la consommation de drogue.
Je tiens à préciser d'ailleurs que ce soir, c'est une émission qui va probablement susciter des conversations dans les couples qui vivent ce type de situation-là. Et sachez qu'on n'est ni dans le jugement, on ne veut pas diaboliser non plus ni le libertinage, ni le chemsex, parce que, hors d'onde, on le mentionnait, le chemsex, oui, c'est sous forme de en fait, de consommation, c'est pour le plaisir, mais il peut y avoir des côtés positifs et négatifs à ça.
Tout à fait. En fait, le chemsex, juste pour vous mettre dans le bain, qu'est-ce que c'est? Le chemsex, ça fait référence à l'utilisation de drogues ou de substances chimiques prises de façon intentionnelle dans le but d'intensifier ou de prolonger le plaisir sexuel.
Est-ce que l'alcool va entrer là-dedans ou c'est vraiment juste des substances plus de drogues? Ou...
Bien, en fait, je vous dirais que toutes les drogues, c'est juste qu'on a certaines drogues qui sont plus qui sont permises là, par la loi, comme l'alcool, le cannabis.
Okay.
Mais on va parler de surtout des substances chimiques. Là.
C'est ça. Le Viagra, Cialis, tout ça, est-ce que c'est compté là-dedans?
Bien oui, je vous dirais, les principales drogues qu'on va parler, c'est surtout le crystal meth, la kétamine, la cocaïne, le GHB, qu'on appelle aussi la drogue du viol, l'ecstasy. C'est les substances les plus populaires là, qui sont utilisées dans le chemsex.
De façon consentante entre les partenaires.
Oui, puis c'est important que tu parles du consentement parce que, on va l'expliquer, c'est pas parce que des gens vont consommer ensemble qu'il faut croire qu'ils vont être d'accord pour tout ce qui va se passer après. Fait que c'est important, des gens qui consomment, de valider le consentement au courant de la relation, là.
Donc, durant l'acte,
oui.
disons, deux, trois personnes, quatre personnes, whatever, sont en pleine action.
En plein débat.
Durant...
En plein débat, voilà.
Oui, en plein débat. À certains moments, il faut valider que tout est toujours correct. Même si on a l'impression que tout est beau, il faut quand même de vive voix le demander. Comment est-ce qu'on...
Tout à fait. Ben, en fait, c'est que oui, on peut le demander
verbalement. Va bien, mais on va, ça.
Oui, okay. Mais on va surtout regarder la personne, comment elle est, parce que dans le fond, ce qu'on sait dans la prise des drogues, c'est tout dépendamment de comment la personne prend de drogue. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est une drogue qu'elle consomme déjà? Ben, tu sais, des fois, les gens vont aller un peu plus fort parce qu'ils veulent ont aimé ce qu'ils ont ressenti la dernière fois. Fait qu'ils vont prendre une dose un peu plus forte, puis là, ils vont s'emmener dans des états, pas comateuse, mais tu sais, vraiment, on voit que la personne n'est plus là. Tu sais, elle a un ralentissement moteur de son corps. Elle n'arrive plus à s'exprimer. Fait que c'est important de voir que quand une personne change d'attitude, bien, c'est important de juste valider avec elle. Est-ce qu'elle est d'accord?
Ouais, ça va, ouais.
Oui. Parce que quelqu'un qui serait comme semi-inconscient, bien, tu sais, c'est illégal d'avoir une relation sexuelle avec cette personne-là. Elle n'est pas consentante. Là. Fait que c'est vraiment important, là, de...
Et qu'est-ce que tu vois surtout parmi les gens qui pratiquent le libertinage, par exemple? Parce que je sais que les gens qui pratiquent le libertinage, en général, en tout cas, les gens du milieu que moi, j'ai connu ou des trucs comme ça, c'est des gens qui se font tester régulièrement. D'ailleurs, tu es ici avec nous ce soir puisque notre autre invitée, Manon, c'est avec toi qui a passé ses tests aux 3 mois, étant dans le milieu libertin. Donc, aux 3 mois. Mais est-ce que c'est suffisant, ça, lorsqu'on est actif sexuellement, de passer les tests aux 3 mois?
Ben, en fait, si je réponds à ta première question, dans le fond, le chemsex, là, ça varie d'une personne, puis ça varie d'un épisode à l'autre. Fait que le chemsex, c'est vraiment très large, puis ça peut être beaucoup de choses. C'est pas juste une chose. Au départ, le chemsex, on en parlait surtout dans la culture gay bisexuelle. C'est surtout là que ça a commencé, que c'est plus assumé, que je vous dirais, le chemsex. Mais vraiment, c'est ça. C'est que il faut voir avec la personne, là. Puis quand tu disais les dépistages, effectivement, c'est que quand on fait du chemsex, ben on se met à risque parce qu'en prenant des drogues, ben des fois, notre jugement est altéré.
Oui.
Puis effectivement, on peut faire des actes.
On est plus willing aussi,
on est souvent
quand on est
plus
sous
willing.
Fait
que ça nous amène à faire des choses que peut-être qu'on n'aurait pas fait. Puis effectivement, les ITSS, en France, c'est un des risques, là, du chemsex.
Puis, je sais qu'au niveau du milieu LGBTQ+, là, il y a beaucoup de gens, surtout les homosexuels, je crois, ils prennent la PrEP.
Oui.
Est-ce que c'est aussi disponible? Ça se trouve à être, en fait, un médicament qu'on prend en prévention.
Oui, dans le fond, c'est une prophylaxie pré-exposition, en fait. Ce qui est important de savoir, c'est que la PrEP va protéger seulement contre le VIH.
Ah, OK.
Le sida.
Donc, souvent, pas contre l'herpès ni contre le VPH ou quoi que ce soit.
Puis c'est ça, c'est important que quand quelqu'un commence la PrEP, dans le fond, c'est de faire de l'enseignement parce que des fois, les gens disent, bon, OK, je suis protégée contre le VIH, fait que le reste, c'est pas grave, mais tu sais, il y a des infections qui vont demeurer toute la vie.
Oui.
Dans le fond, c'est important de faire un bon enseignement. Mais la PrEP, elle va être surtout utilisée, je vous dirais, ici au Québec, chez les HRSA. Les HRSA, c'est des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ou chez les femmes trans, ça veut dire quelqu'un qui serait né femme, mais qui...
Et des gens qui ont des comportements à risque, sexuels à risque,
oui.
Ils pourraient avoir accès à la PrEP,
oui.
Hommes, femmes...
Tout à fait. Ben, on l'a des fois dans certaines personnes qui font le travail du sexe, qui vont le demander, mais c'est surtout plus chez les HRSA, comme je disais, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes.
HRSA, l'abréviation. HRSA, c'est...
Homme ayant relation sexuelle avec d'autres hommes.
OK, excusez-moi. Oui, vraiment.
C'est comme... Je m'excuse pour l'acronyme, mais c'est pas ça.
Ben non, c'est parfait. C'est vraiment super intéressant. Et il y a quelque chose sur quoi je trouve très important de s'arrêter. C'est la protection des relations sexuelles par voie orale.
Oui.
Ben oui.
On a tendance à se protéger
presque quand c'est une relation par pénétration, tout ça. Mais orale, on en parlait avant d'entrer en onde. Et on fait moins attention, mettons.
Bien, on fait moins attention. Les gens ne sont pas portés à se protéger pour la voie buccale, en fait.
De...
Cunnilingus, fellation avec condom ou avec digue dentaire, c'est moins le fun un peu. Et souvent, tu peux même te faire juger lorsque tu le proposes.
Oui.
Mais les gens oublient que dans notre gorge, dans notre bouche, ce sont des muqueuses qui peuvent aussi facilement transmettre les infections, les ITSS. Donc, il y a des cas là, de syphilis, de gonorrhée, autant chez les célibataires vanille, moldus, des gens qui ne sont pas très actifs sexuellement, mais qui font des cunnilingus ou des fellations. Ils se retrouvent avec des infections dans le fond de la gorge. Et je pense qu'ils se font moins tester aussi dans le fond de la gorge. Les gens, ils sont porteurs, ils ne savent pas.
Bien, en fait, ce qui arrive, c'est que les dépistages à la gorge, ils ne sont pas faits tout le temps. Parce que pour qu'un professionnel décide de faire un dépistage à la gorge à quelqu'un, il faut déjà qu'il dépiste des facteurs de risque. Parce que si j'ai une personne qui arrive devant moi puis qui me dit qu'elle est en relation exclusive hétérosexuelle, bien, le risque d'infection à la gorge est plus faible que dans quelqu'un qui aurait une relation
nulle ou presque. Là. Ouais.
Exactement.
Ouais.
Fait que c'est pour ça que souvent, les gens vont être gênés. Mais dans le fond, le but des questions lors du dépistage, c'est ça, c'est pour permettre aux professionnels, dans le fond, de déterminer c'est quoi les facteurs de risque et de faire le bon dépistage adéquat.
Mais y a-tu des symptômes? Mettons quelqu'un l'attrape là, sans le savoir. Là, mettons,
il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de symptômes, qui ont même des fenêtres. Là. En fait, ça ne sert à rien d'aller se faire tester le lendemain d'une relation sexuelle non protégée.
Dans les dépistages, en fait, pour répondre à votre question, il y a comme des périodes fenêtres. Une période fenêtre, ça veut dire c'est le moment que j'ai eu la relation puis le temps que mon corps va prendre à... l'incubation que ça va prendre pour que la maladie soit détectable, il y a une certaine période. Fait qu'entre autres, pour la chlamydia gonorrhée, la période fenêtre, c'est 14 jours. Fait que quelqu'un qui aurait eu une relation sexuelle non protégée hier puis qui vient me voir le lendemain, si c'est une personne qui est à risque, dans le fond, c'est qu'on ne perd jamais d'occasion de faire un dépistage. Parce qu'on sait que quand on a quelqu'un devant nous, on saute sur l'occasion, on fait un dépistage, mais se dire à la personne, écoute, il ne faut pas que tu penses que ton test est valide. Dans le fond, ton test est valide, mais c'est juste que les 14 derniers jours ne comptent pas. Fait que c'est important de refaire les dépistages de façon régulière. Et chez comme les couples échangistes ou les gens qui ont de multiples partenaires, ce que je vais leur suggérer, c'est de faire un dépistage aux 3 à 6 mois afin de s'assurer que s'il y a une infection qui est transmise, qu'on la détecte le plus rapidement possible et éviter la transmission à d'autres.
Et je sais que dans le cas de l'herpès génital et même buccal, parfois, on peut avoir par des prises de sang des résultats positifs, mais ça pourrait être des faux positifs, en fait, parce que semble-t-il que le corps peut détecter les anticorps. Donc, le fait que la personne a été en contact avec le virus, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle est porteuse. Donc, c'est vraiment des signes sur la peau auxquels il faut tenir compte là, pour se...
Mais souvent, le diagnostic va être fait souvent sur comme une lésion au niveau de la bouche ou génitale. Mais ce qu'on aime bien faire aussi, c'est que la première fois que quelqu'un a une crise, qu'on observe les symptômes, on aime ça faire une culture parce que ça nous permet de savoir c'est quoi le type d'herpès, parce qu'il faut savoir qu'il y en a deux, l'herpès de type 1 et de type 2. Oui. Puis en fait, c'est qu'une fois que quelqu'un a le diagnostic d'herpès, c'est qu'on ne refera plus de tests éventuellement. On sait que l'herpès, c'est un virus et malheureusement, ça ne se guérit pas. Tu sais, quand on parlait d'infection qui ne part pas, bien, l'herpès en était une. Et dans le fond, c'est d'expliquer à la personne quand est-ce qu'elle peut le transmettre, parce que souvent, après, il y a des fausses croyances. Les gens pensent que là, ils transmettent le virus tout le temps, mais on leur explique que...
C'est une période... des crises, j'imagine.
C'est avant et après les crises, hein?
Généralement, on va être... on dit que 24 à 48 heures avant la crise, on peut déjà transmettre l'infection.
C'est pas évident,
souvent, pareil. Il y a des gens qui vont sentir que la crise s'en vient. On appelle ça un prodrome. Ils ont comme des sensations d'engourdissement, de picotement, fait qu'ils savent que ça s'en vient. Mais chez d'autres personnes... ont pas de symptômes, fait que malheureusement, peuvent le transmettre de façon involontaire.
C'est tout qu'un monde. Et je tiens à préciser d'ailleurs que pour votre soutien visuel, vous pouvez vous rendre sur le live TikTok La Sexploratrice. On a plusieurs questions déjà qui entrent. Je ne sais pas si on aura le temps de prendre vos questions, mais n'hésitez pas quand même à nous les partager puisque j'ai grandement l'intention de réinviter nos deux magnifique personne ce soir parce que c'est certain qu'on va avoir plein de questions.
C'est parce que même si on fait beaucoup de prévention et qu'on en entend parler de plus en plus des ITSS, je pense que on a encore plein de questions. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. T'sais, comme concernant l'herpès, entre autres, concernant les chlamydia gonorrhée dans la gorge.
On manque
d'éducation. Si, mettons, je sais pas, moi, t'es en couple straight, hétérosexuel, puis normalement, ça fait plusieurs années que t'es avec ta blonde, puis oups, d'un jour, tout d'un coup, elle est en couple ouvert, puis toi, tu le sais pas. Fait que ça se peut qu'elle te ramène des maladies, puis t'es pas au courant, puis t'auras pas de symptômes. C'est pas
mais
évident.
Mais même
là.
L'herpès, en fait, si je ne me trompe, ça peut sortir 15 ans plus tard. Là. Ça se peut que tu sois en couple depuis 5 ans avec quelqu'un, t'sais... et que t'aies une poussée d'herpès qui date de v'là 10 ans.
Bien, en fait, c'est ça, puis c'est drôle que vous parlez de ça parce que j'ai fait des dépistages récemment et j'ai un couple, c'est ça, l'herpès est sorti positif et ça a créé un malaise dans le couple parce que le couple était
monogame, exclusif.
Exactement. Ouais. Puis là, bien, dans le fond, c'est de leur expliquer qu'effectivement, on peut avoir eu une première crise, puis elle a passé inaperçue. Il y a des gens qui vont faire des crises d'herpès à répétition. On peut leur donner un traitement suppressif pour éviter pour et ça, mais il y a des gens qui vont faire une crise, puis après, ils peuvent être des mois, des années sans en faire d'autres. Et là, ça sort tout d'un coup, souvent quand le système immunitaire est affaibli. La personne, elle a plus d'anxiété.
Oui.
Alors, des fois, c'est de relativiser ça avec la personne, puis c'est comme un peu impossible de dire quand c'est sorti exactement. Donc, dans le fond, c'est leur expliquer que c'est ça. Ça peut être la première crise, mais sinon, ça peut être une
crise. Ça peut être là depuis longtemps. Okay.
Tout à fait.
Donc, Mélanie, t'offres tes services d'infirmière clinicienne CIDEP dans le secteur de Montréal.
Oui, moi, je travaille dans le CIUS de l'Est de Montréal, plus particulièrement au CLSH-Lagard-Maisonneuve. Les plus grandes personnes que je vois, en fond, c'est le domaine du travail du sexe. Oui. Après, les couples échangistes, les gens qui consomment des drogues, c'est vraiment ma spécialité. Là. Fait que j'offre du dépistage. Fait qu'en fait, moi, mon travail, c'est d'aller dans le milieu, sortir dans la rue pour réussir à amener les gens au CLSC dans le système régulier. Puis dans le fond, c'est ça, le CIDEP, c'est on va chercher les gens où ils sont. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des facteurs de risque, exemple, qui consomment des drogues. Des fois, on peut aller dans des refuges. On peut aller dans des salons de massage, on peut aller dans des piqueries. On va chercher les gens où ils sont, puis on essaie de les ramener au CLSC.
Très intéressant. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Tu vas sans doute interagir avec nous là, durant notre bel échange avec Manon. Manon, qui est une ex-libertine, une ex-adepte de chemsex, voyons.
Oui, oui.
Je suis pas le bon terme.
T'en perds tes mots.
Mais restez avec nous. On va tout de suite faire une pause pour ensuite vraiment clencher là, jusqu'à la fin de l'émission avec ton histoire, sans pause, parce que je sens que ça va être hyper intéressant. On a beaucoup de questions pour toi, Manon. Yes. Donc, restez avec nous. On est en compagnie de Manon. Et Mélanie, vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel.